en 1997. C'était aux éditions BMG Classique. Tout à l'heure à 11h45, rediffusion du bulletin de réinformation de ce matin, et puis à midi et en direct, le libre journal Propos d'atelier créé par Philippe Lejeune. Mais tout de suite, voici également en direct les livres du jour, les mardis de la mémoire d'Anne Colin et Dominique Paoli. Bonne fin de matinée à tous, vous écoutez Radio Courtoisie, il est 10h45.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour, les mardis de la mémoire d'Anne Colin et Dominique Paoli, diffusés en direct mardi 22 septembre 2009 de 10h45 à 11h45, en différé l'après-midi de 14h à 15h, mercredi 23 de 6h à 7h et samedi 26 septembre de 14h à 15h. Cette émission est réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Chers amis auditeurs, bonjour. Nous sommes très heureuses, Anne Colin et moi, de vous retrouver pour un nouveau Mardi de la Mémoire en pleine rentrée, en pleine automne. L'automne est commencé. Anne, bonjour.
Bonjour Dominique.
Et nous avons le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir deux personnalités du monde de la royauté, d'une certaine manière. Je ne veux pas quand même donner des étiquettes immédiatement aussi nettes, mais disons que les auditeurs s'en rendront compte au cours de l'émission, puisqu'ils vont entendre Michel Fromentou, rédacteur en chef de l'Action française 2000. Bonjour Michel.
Bonjour Dominique.
Et Tony Canter, historien des idées politiques, qui vient de publier un ouvrage très important intitulé « Charles Maurras, la contre-révolution pour héritage » avec une préface du professeur Olivier Dard aux nouvelles éditions latines. Alors avant d'entamer notre sujet, Anne, nous avons quelques petites annonces à faire. Bon, il n'y a aucun ordre particulier, mais disons que pour nos auditeurs, la messe à l'intention de Serge de Beketch aura lieu le samedi 3 octobre, c'est non pas si longtemps, à 11h à l'église, en l'église Saint-Eugène, 4 rue du Conservatoire à Paris, dans le 9e arrondissement, métro Bonne Nouvelle ou Grand Boulevard, et cette messe sera célébrée selon le rite extraordinaire par le père Argouarche. Donc 3 octobre, Serge de Beketch. Et un peu plus tard dans le mois d'octobre, nous n'avons pas encore la date exacte, eh bien ce sera la messe à la mémoire de Jean Ferré. Toujours, je pense, forte chance pour que ce soit également l'église Saint-Eugène. Alors, par ailleurs, je souhaitais vous préciser que hier, dans son émission, Henri Lesquin avait invité, entre autres, Bernard de Fallois, le grand éditeur, qui vient, lui aussi, de publier un ouvrage sur le roi Louis-Philippe. Et je voulais surtout annoncer à nos auditeurs que Monroe Price, normalement, alors vient en France, c'est un Anglais qui est lié d'ailleurs à l'université d'Avignon, non, de Lyon, pardon, de Lyon, et qui doit venir en France fin octobre, et donc il est prévu qu'il passe chez nous dans notre émission du mardi 27 octobre. Bon, normalement, ça a été confirmé. Enfin, comme s'il s'agit d'un voyage, c'est toujours sujet à possible annulation, mais je ne pense pas. Donc, normalement, nous recevrons M. Monroe Price le 27 octobre. Alors, je voulais signaler la parution d'un ouvrage, et ça je crois que ça va être une excellente introduction pour notre sujet, puisqu'il s'agit du livre de François-Marie Algou, le tome 3 de son ouvrage « Actualité et présence » de Charles Maurras. Et le tome 3 est intitulé « Le grand siècle de l'action française ». On ne pouvait pas faire mieux. Hein. Alors, aux éditions de Chiré. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Et donc, nous allons maintenant nous intéresser à l'influence de Louis de Bonald et de Joseph de Maistre sur la pensée contre-révolutionnaire de Charles Maurras. Vaste sujet, mais sujet passionnant. Et donc, nous avons Michel Fromentoux. Alors, Michel Fromentoux, j'ai vu que vous aviez publié beaucoup d'ouvrages.
Oh, un peu.
Oh, bah, écoutez, il y en a au moins une petite dizaine.
Et vous avez eu... Certains ne sont d'ailleurs plus disponibles.
Mais c'est bien dommage. Alors, vous avez eu aussi le prix Saint-Louis.
Ah oui. Ah, mais bon. Ça, donc... assez fier.
Je vous comprends.
Et puis, ce sont de la presse monarchique qui m'est très chère aussi. Voilà.
Pardonnez-moi ce manque de modestie, mais je vous ai suivi et j'en suis c'est aussi vrai. Très fier.
Je crois.
Voilà, donc vous avez écrit des livres surtout d'études politiques, entre autres, hein, mais surtout ça. Et vous avez contribué donc au tome 2 de Actualité et présence de Charles Maurras avec, de François-Marie Algou.
Oui, oui, ça a été avec grand plaisir.
Voilà. Bon. Donc, Michel Fromentoux. Alors, Tony Kunter.
Oui.
Dites-nous tout.
Oui, pourquoi...
Présentez-vous, dites-nous pourquoi ce livre, voilà.
Mais pourquoi j'ai écrit ce bouquin ? En fait, il s'agit d'un parcours intellectuel. J'ai d'abord été deux fois lauréat du concours de la résistance et de la déportation, en 1998 et 99. Donc je me suis intéressé aux théories du nationalisme allemand en particulier. J'ai dévié sur les théories du nationalisme français. Puis ensuite, j'ai découvert Maurras alors que j'étais en première année d'histoire. Dans le cadre d'un commentaire de l'affiche annonçant le premier numéro de l'Action française quotidienne, le 21 mars 1908. Puis ensuite, en licence, j'ai découvert le bouquin de Michel Toda, qui proposait de faire une analyse des rapports entre la pensée de Maurras et de Bonald. J'ai étendu le problème à Joseph de Maistre, et ensuite je l'ai étendu à une refondation de la pensée contre-révolutionnaire en France par Charles Maurras.
Ouais, très bien, bah, joli parcours. Hein.
Alors, il y a aussi la mort de mon père qui a compté dans l'écriture de ce bouquin. D'ailleurs, ce bouquin lui est dédié. Mm-hmm. Mon père est mort dans des circonstances assez sinistres. On l'a poussé à mettre fin à ses jours, enfin les ripoux de la police nationale. C'est une histoire assez sinistre. Et ça m'a donné un petit peu de la rage par rapport à la République. Et je me suis intéressé à ces auteurs-là. Pour autant... j'ai gardé une optique d'historien.
Oui, c'est très bien.
Et je suis resté assez impartial, je pense.
Oui, oui, tout à fait.
Tout mon travail, j'ai voulu le faire dans une optique d'histoire à la source et non d'histoire par la problématique. Parce que je pense que l'histoire par la problématique demeure une projection intellectuelle qui te laisse le terrain de la méthode et de la raison au profit des a priori et de l'intuition. Et j'ai aussi souhaité le faire en rapport avec l'école de la contextualisation de Quentin Skinner, qui postule l'intentionnalité de l'auteur.
Alors, c'est très bien d'avoir choisi les sources. Ce n'est pas moi qui vais vous contredire. Les sources sont évidemment indispensables à l'historien. Après, bon, au fond, il y a plusieurs types d'historiens, c'est certain. Vous arrivez quand même à cumuler les sources et quand même l'interprétation des sources, bien sûr. Mais je pense que commencer par les sources est fondamental, quitte à ce que peut-être d'autres derrière... et c'est le meilleur hommage qu'on puisse rendre à un livre, se servent de vos travaux pour faire leurs propres réflexions. Donc moi je trouve que c'est le point de départ, et je pense que vous avez bien fait de souligner ce choix.
C'est un travail empirique que j'ai fait d'historien, et je pense qu'il est assez inattaquable, parce que je me suis vraiment basé sur des sources, je n'ai pas fait dans la littérature de bas étage, j'ai vraiment pensé mon sujet à fond.
Vous avez prononcé un mot capital pour cette émission, empirique. Hein,
oui.
L'empirisme, donc, quelquefois organisateur,
bien
si
sûr,
nous pensons à Maurras.
Sûr.
Je crois que là, c'est vraiment un des mots qui domineront, mots M-O-T-S, qui domineront cette émission. Alors, moi je vais vous proposer...
D'autant, Dominique, juste pour rebondir un tout petit peu sur ce que vient de dire Tony Kunter, c'est un jeune auteur. Hein,
les auditeurs ne le voient pas.
Non, mais
ils entendent sans voix.
La voix est quand même révélatrice de l'âge.
J'ai 26 ans, voilà.
Même s'il y a des personnes dont la voix ne vieillit pas,
c'est vrai.
Vraiment, on s'en rend compte avec nos invités. Donc juste un petit mot pour revenir sur ce que vous disiez sur cette approche d'histoire problématique. Je pense que précisément, Maurras, comme Bonal, comme Metz, ont souffert pendant des générations d'une approche problématique par des historiens avec une intention qui n'était pas forcément très objective ni très positive, et qu'il n'y a que le retour aux sources et l'honnêteté intellectuelle qui ont permis depuis quelques années, parce que vous avez tout de même quelques prédécesseurs,
oui,
de ressortir et de remettre à l'honneur des auteurs qui ont été vraiment d'un apport capital pour leurs contemporains et pour la suite, pour enfin des années et des siècles qui ont suivi.
Les deux auteurs qui ont particulièrement malmené Maurras et avec de basses intentions, ce sont Zip Sternel et Ernst Nolte. L'un pour déculpabiliser son peuple du national-socialisme et l'autre parce qu'il veut niveler l'histoire de l'Europe, niveler les identités nationales. Taxe de fasciste, tout ce qui ne va pas dans son sens en fait.
Ouais,
donc c'est ça, un petit peu facile.
Ouais. Il y en a encore aujourd'hui, je ne citerai pas de nom parce que je ne veux pas faire de polémique à l'antenne, mais il y en a encore aujourd'hui qui sont des ennemis de Maurras et qui ont mal, à mon avis, mal compris Maurras et qui en plus sont quelquefois dans la même mouvance que nous. Bon, donc, il y a les ennemis de l'extérieur et il y a les ennemis de l'intérieur. Mais encore une fois, je ne citerai aucun nom. Alors, moi, je vais vous proposer, pour commencer cette réelle, enfin, pour continuer cette émission, de nous présenter Tony Kunter et Michel Fromentoux, bien sûr, et Anne, puisque je sais que vous avez travaillé beaucoup ces sujets-là. Expliquez-nous un petit peu qui était Louis de Bonal, qui était Joseph de Maistre, ce qu'il y a au fond de commun, de convergent dans leurs recherches, à quelle époque ils vivaient, donc ils ont vécu la Révolution française, donc en fait ils ont vécu un siècle avant Maurras, hein, et après ils ont eu une certaine influence sur Maurras, on pourra dans un troisième temps justement dégager cette influence. Alors, commençons peut-être par Louis de Bonal, parce que votre couverture montre Maurras en train de regarder la... Parce que c'est pas une pierre
tombale. C'est le document phare. Le document phare, c'est le tombe devant le tombeau de Louis de Bonal.
C'est ça, mais c'est une grande plaque commémorative, voilà, et qui donc qui fait la couverture de votre ouvrage. Donc commençons peut-être par Louis de Bonal.
Bah, Louis de Bonald, pour les dates, dit il est né en 1754, il est mort en 1840. C'était un gentilhomme rouergat qui s'est opposé à la Révolution après la Constitution civile du clergé. C'était un fidéiste, monarchiste et catholique ultramontain. Il fut le porte-voix des légitimistes durant la Restauration. C'est en émigration à Heidelberg que Bonald trouve sa vocation d'écrivain. Il écrit son œuvre manifeste, La théorie du pouvoir politique et religieux, qui part en 1796. Il s'y attaque à la Déclaration des droits de l'homme, au contrat social de Rousseau et aux innovations sociales et politiques de la Révolution pour prôner un retour à une monarchie idéalisée et surtout au principe de l'Église catholique. Il se retire de la vie politique après la Révolution de 1830 et il meurt vraiment désespéré. Chef de file des traditionalistes, il a développé une analyse fondée sur la révélation primitive du langage. L'homme pense sa parole avant de parler sa pensée, la parole étant un don de Dieu. Il s'oppose aussi à la théorie de l'homme individuel, préférant celle de l'homme social, la société étant l'ordre naturel. L'autorité sociale semble antérieure à l'homme et il constate que dans l'histoire, il y a toujours eu un pouvoir, que ce soit Dieu, le roi, le père, des ministres, le sacerdoce, la noblesse ou la mère, et des sujets, les fidèles, les vassaux, les enfants. Son modèle politique est à l'image de la Trinité divine. Pour lui, tout vient de Dieu, ce qui fait de lui véritablement un théocrate.
D'accord. Alors, Michel Fromentoux, qu'est-ce que vous... Votre sentiment, vous, sur Bonald?
Oui, je répondais ce que vient de dire Tony. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le mot théocrate.
Ah oui, alors ça va être un mot important aussi.
Je ne pense pas qu'on puisse vraiment accuser Bonald et Joseph de Maistre d'être vraiment des théocrates au sens où on emploie habituellement. Ils n'ont jamais voulu confondre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, car ils ont toujours admis que cette distinction devait exister. Alors, il y a un côté ultramontain, comme vous l'avez fort bien dit, mais je crois que c'est un peu faussé leur image que de les présenter comme des théocrates, des gens qui auraient voulu que tout soit soumis à l'autorité du pape, que tout soit... Je ne pense pas que c'était vraiment cela. Pour Joseph de Maistre, je connais un petit peu moins le sujet, mais peut-être que Anne nous en parlera.
Quand on lit du pape de Maistre, oui. On est quand même proche oui. du dogme de l'infaillibilité pontificale promu par Pie IX.
Oui, mais ça n'entraîne pas la théocratie.
Oui, enfin, le droit divin oui. est quand même inscrit dans son programme, si je puis dire.
Oui, le droit divin. Le droit divin, c'est quelque chose qui est conforme à la nature, je pense, que de toute façon la nature étant créée par Dieu, tout ce qui va dans l'ordre naturel va forcément dans l'ordre de la création, et l'expression droit divin, moi, ne me choque pas, et je n'ai jamais pensé que ça pouvait mener à une théocratie. Mais pour continuer encore sur ce que disait Tony, on en parlera peut-être après pour Maurras, mais je voudrais le remercier et le féliciter pour cet ouvrage auquel il s'est donné beaucoup de mal. J'en suis même témoin parce que nous avons fait connaissance justement grâce à ce livre et je l'ai vu réfléchir, je l'ai vu travailler et je l'ai vu rencontrer certaines personnes. Donc j'ai assisté un peu à la naissance de cet ouvrage. Et je me réjouis que cet ouvrage soit sorti, et je souhaite qu'il ait le succès qu'il mérite. Vous y contribuez, n'est-ce pas, Dominique?
Non, bah, écoutez, c'est normal. Hein.
Et je suis donc ravi. Et bien qu'il ait dit qu'il voulait être inattaquable, je ne pense pas qu'il le sera en tout, mais je crois qu'il est objectif, et c'est une bonne qualité. Et moi, il m'a quand même fait découvrir le génie, je le connaissais déjà, mais il m'a fait mieux approfondir, disons, le génie de Maurras, qui ne s'est pas contenté de répéter ce qu'avait dit ses devanciers. Il y avait déjà des royalistes avant Maurras, c'est vrai, mais Maurras a renouvelé complètement.
Les royalistes
ouais. commençaient un peu à s'endormir, n'est-ce pas?
Oui, ils ont traité un peu de galopin, d'ailleurs, royalistes.
Oui, hein. Alors Maurras a tout de même trouvé une situation qui était à reprendre entièrement. Et il s'est appuyé sur Bonald de Maistre et puis aussi sur beaucoup d'autres écrivains, on peut citer Balzac, Berryer, Blanc de Saint-Bonnet, Taine, Le Play, Rivarol, bien entendu.
Renan,
et même Renan. Et Auguste Comte, bien entendu, on en parlera peut-être à un autre moment.
Ah oui, tard. Auguste Comte.
Mais je crois que vraiment, là on voit que le génie de Maurras a été de reprendre tout ce qu'il y avait d'intéressant de tous ces auteurs-là, et d'y apporter quelque chose en plus qui vient de lui, qui vient peut-être de son drame personnel déjà. On parlait de drame tout à l'heure. Chez Maurras, en effet, un drame personnel qui l'a amené à attaquer la République, bien sûr, et qui l'a amené en même temps, malheureusement, à perdre la foi. Mais par le fait qu'il ait perdu la foi, il a retrouvé, sans se référer à la sagesse divine, exactement tout ce que la sagesse divine peut enseigner. Il l'a retrouvé par l'expérience, par l'observation, et c'est ça que je trouve extraordinaire. Moi, on accuse parfois Maurras d'avoir été agnostique, c'est même pas vrai. Maurras n'était pas agnostique, il avait perdu la foi, mais il a cherché, il a passé toute sa vie.
Toute sa vie, il a cherché la foi, oui.
Et donc, Maurras a fait une excellente œuvre comme ça, en montrant qu'on pouvait, par la raison, par l'expérience, aboutir à des conclusions qui sont les mêmes que quelqu'un comme Bonald qui partait de Dieu. Alors je trouve que cela rend hommage à la fois à Bonald et à Dieu lui-même d'ailleurs, parce que la création n'est pas quelque chose de tout fou, on n'est pas soumis qu'à la volonté de Dieu. Dieu a inscrit dans le monde, dans la nature, des lois naturelles, c'est des lois fondamentales, on peut dire ces lois naturelles, mais quand on les retrouve, on retrouve finalement l'œuvre de Dieu.
Alors Anne, à votre tour, j'aimerais bien avoir votre opinion, enfin votre sentiment sur Bonald.
Écoutez, d'abord, moi, je trouve toujours intéressant de rappeler que Bonald est le jumeau, à peu près, de Louis XVI. Hein, il est né en 1754, et donc, bien qu'il meure en 1840, il faut imaginer que si Louis XVI n'avait pas eu le sort qu'il connaîtra en 1793, il aurait pu vivre comme Bonald. Donc, c'est un contemporain de Louis XVI, c'est toujours important de le rappeler. C'est un noble de province comme Joseph de Maistre, un Aveyronnais, Joseph de Maistre et Savoyard, c'est pareil, c'était des personnages assez typés d'un point de vue social.
De distinctions différentes, parce que oui. Louis de Bonald était vraiment financièrement sur la fin, quoi, sur la réserve.
C'est sûr.
Parce que Joseph de Maistre, c'était pas un oubliot de province quand
non,
même.
Non, non, il avait une aisance à la fois financière et aisance tout court, mais justement, qui explique beaucoup la différence entre les deux personnages. Parce qu'on a souvent dit que Louis de Bonald n'avait pas eu la place qu'il méritait parce qu'il écrivait mal. Hein, c'est la tarte à la crème qui est perpétuellement ressortie le concernant. il écrit, il a une écriture typée, enfin marquée de son époque. Quand on relit Benjamin Constant, c'est pareil, hein, c'est extrêmement difficile à lire. Il écrit comme on est, ou Madame de Staël, elle est totalement illisible maintenant.
Je trouve qu'il a été marqué aussi par ses origines germaniques, certainement, parce qu'il a un style très carré, oui. Très logistique.
C'est vrai. Mais je pense surtout que Bonald est quelqu'un qui ne cherche jamais à plaire. Donc, il n'a pas d'artifice ni dans sa vie, ni dans ses conversations, ni dans son écriture. Il dit ce qu'il a à dire et dans ses relations, c'est pareil. Et pourtant, il saura peut-être plus que Joseph de Maistre se faire apprécier par les plus grands. Joseph de Maistre est un ami de Madame de Staël, mais Bonald est lu par Necker et apprécié par Necker. Bonaparte voudra le faire rééditer. Et on sait que Napoléon, alors à ce moment, lit Bonald et s'inspire de Bonald.
Il voulait s'en rapprocher particulièrement. Il lui a fait plusieurs fois des appels.
Propositions. Il va être, je ne sais plus quel est le terme exact, mais il va travailler à la bibliothèque.
À l'université.
Exactement. Il est titulaire de l'université. Il met du temps à accepter, mais il finit par accepter. Et puis son fils, le cardinal de Bonald, sera un haut personnage, très apprécié, ami intime de Napoléon III, puisque Louis Bonaparte voulait confier, enfin le roi de Hollande voulait confier l'éducation de ses enfants à Bonald. Hein. Bonald a refusé, mais donc je pense que c'est un personnage qui ne cherche pas à plaire, qui est donc évidemment qui est mal connu, mal compris. Mais moi, je suis assez d'accord avec Michel Fromentou sur ce terme de théocrate et théocratie qu'il faut employer. Enfin, c'est un peu un raccourci de langage, une facilité
de
langage.
Oui, c'est comme ça, je pense, qu'on l'emploie voilà. Plus souvent.
Mais effectivement, il y a derrière ces notions qui sont incompréhensibles pour nos contemporains, cette alliance du trône et de l'autel, ce pouvoir venu de Dieu. C'est quelque chose dont nous arrivons, nous, à comprendre les nuances et les subtilité parce qu'on a une formation historique, chrétienne, mais sinon c'est tellement difficile de faire comprendre les lois fondamentales, tout pouvoir qui vient de Dieu. Comment faire comprendre où étaient les limites que s'imposaient eux-mêmes les rois, c'est des notions très très complexes. Ah oui. J'en finis parce que je ne reviendrai pas sur Joseph de Maistre, je connais moi aussi un peu moins et que j'aime un peu moins, je dois dire. Je pense que ce qui les séparait beaucoup tous les deux, et c'est intéressant parce que Joseph de Maistre meurt en 1821, donc lui, il ne va pas connaître la monarchie de Juillet. Quel aurait été son regard porté alors que Bonald vit jusqu'en 1840. Mais ce qui les séparait beaucoup, c'était l'appréciation qu'ils avaient sur la question de la souveraineté élective, même quand elle est censitaire. C'est-à-dire que Maistre avait une espèce d'attirance pour le système anglais. Bonald absolument pas.
Oui.
Il avait une conception de l'ordre, de la souveraineté et du pouvoir qui lui rendait vraiment extrêmement antipathique le modèle de toute forme de monarchie constitutionnelle ou de souveraineté élective.
Alors, nous avons deux choses qui viennent conforter ce que vous venez de dire, ma chère Anne. D'abord, nous avons un message d'auditeur que je trouve fort intéressant et qui nous dit « Pourriez-vous évoquer les liens entre les contre-révolutionnaires, Bonald et Maistre, l'Ardèche et la franc-maçonnerie ?» Et ça, je trouve important l'histoire de la franc-maçonnerie, puisque si mes souvenirs sont bons, Maistre était à la fois légitimiste et franc-maçon, appartenant à la franc-maçonnerie telle qu'elle existait à la fin du XVIIIe.
Et ne le cachant pas.
Non, je pense que la personne qui vient de poser cette question me connaît, puisque
je
me parle de l'Ardèche et on sait que ça me touche beaucoup le cœur. Si quand on me parle de l'Ardèche, je suis ravi.
Vous êtes ardèche,
quoi. Il est évident que je ne vois pas de lien direct entre l'Ardèche et Bonald et Joseph de Maistre. Mais bon, raison qu'ils sont bien provinciaux eux aussi, mais un Savoyard et un Rouergat. Et moi, l'Ardèche, je suis un peu à mi-chemin entre les deux, géographiquement, bien sûr. Mais l'Ardèche est un pays profondément, était du moins jusqu'à jusqu'au cataclysme que l'Église a subi, n'est-ce pas, depuis Vatican II, était, même un peu avant, était un pays vraiment très très catholique, très très chrétien, profondément chrétien. Et il y avait beaucoup de royalistes, ne serait-ce que celui qui fut mon ami, Xavier Vallat, qui a été longtemps directeur d'Aspect de la France, qui était le journal, le nom que portait l'Action française après la guerre. Alors, si notre auditeur veut savoir ce que je pense de l'Ardèche, je crois qu'il sait que c'est mon grand pays, que j'aime beaucoup, et que pour moi, évidemment, c'est presque le centre du monde, bien sûr. Mais alors, ça nous éloigne quand même de Bonald et de Joseph Semestre. Mais je suis intéressé justement parce que j'étais dans un creuset qui m'a amené tout de suite à m'intéresser à la monarchie, J'aimais beaucoup les généalogies royales. C'est une chose qui me passionnait quand j'avais déjà 12 ou 13 ans. Et j'en faisais beaucoup.
Pour les ménages.
Hein. Et j'avais compris, même tout seul, il y avait quelque chose d'extraordinaire, même sang qui passait comme ça dans les veines des uns et des autres, et que le roi était bien obligé, s'il voulait faire l'avenir de son fils, même de bien gouverner. Donc je me disais, il y a quand même quelque chose, une garantie de sérieux, une garantie de responsabilité, tout de même, de son fils qui va succéder. Alors, c'est comme ça que je suis devenu royaliste, puis j'ai eu ensuite Maurras, et j'ai eu Bonald, bien sûr. Voilà, puis alors, quant à la franc-maçonnerie, ce qu'elle vient faire là-dedans pour ce qui me concerne.
Oui, pas pour vous, mais peut-être pour Mestre.
Pour Mestre, quelqu'un a quelque chose à
dire. Mestre était attaché à la loge maçonnique, mais...
Oui, mais la franc-maçonnerie de l'époque, qui est tout à fait différente.
Oui.
Celle qui a été plus ou moins introduite en France par Jacques II, le roi de Grande-Bretagne.
Mais
II.
Il n'en restait pas moins fervent catholique. Il s'est rapproché de la loge parce qu'il était un petit peu déçu du clergé de son époque, en fait, hein, qui était un petit peu pas assez mystique pour lui. Il avait une envie de mysticisme qui faisait qu'il avait besoin de quelque chose comme le maçonnisme.
Oui, puis je pense que ce sont des nobles très caractéristiques de leur époque, c'est-à-dire qu'il faut des éléments vraiment forts pour déclencher pour eux une véritable hostilité à la Révolution française, un départ en émigration. Avant, ils sont un peu, pas totalement dans l'air du temps, mais enfin, ils se laissent porter par, effectivement, la mode, on dirait, ambiante, qui est que quand on a une certaine place dans la société de sa région, ce qui est le cas de Joseph de Metz, on fait partie de la loge maçonnique.
Voilà, on rencontre des personnes avec qui on a des points communs, avec qui on peut s'entraider, mais tout, un peu comme sont aujourd'hui des associations comme le Rotary, par exemple, qui a peut-être des liens avec la maçonnerie, mais je n'en suis pas sûr du tout. Mais c'était à l'époque, c'était tout à fait normal. Si on parle de l'Ardèche, mes compatriotes, les frères montgolfiers, faisaient partie de la franc-maçonnerie.
Oui, mais la franc-maçonnerie de la fin du XVIIIe, donc je redis avec Jacques II, le roi d'Angleterre, hein, c'est pas encore la Grande-Bretagne, effectivement, qui l'introduit donc au XVIIe siècle en France, c'est quand même, à la fin du XVIIe siècle, c'est quand même une franc-maçonnerie qui n'a strictement rien à voir avec celle que connaîtra Maurras un siècle plus tard.
Qui est vraiment dangereuse.
Et qui, elle, est dangereuse. Et là, on retombe sur cette distance d'un siècle entre Bonald Mestre et Maurras.
Oui, tout à fait. Deux époques différentes.
Deux francs-maçonneries différentes également. Alors, je voulais, Tony Kenter, vous demander si vous pouviez, pour employer un terme moderne, rebondir sur une phrase que j'ai relevée chez Mestre, sous la plume de Joseph de Mestre, pas Xavier, hein, Xavier c'était son frère, hein, disons-le, hein, écrivain simplement, pas dans la politique. Mestre écrit à Bonald, je n'ai rien pensé que vous ne l'ayez écrit, je n'ai rien écrit que vous ne l'ayez pensé. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ben, je pense qu'ils avaient des rapports cordiaux entre eux et que, en effet, on peut retrouver de grandes proximités entre les pensées de Mestre et Bonald, notamment sur le fait déjà de refuser la notion contractualiste de Rousseau et de dire que l'état de société et se confond avec l'état de nature, que l'état de nature c'est l'état social, de vanter les inégalités naturelles. Et aussi, sur tout ce qui est le versant plus religieux, ils avaient un parfait accord sur le rôle attribué au pape et sur ce genre de choses.
Alors, tout à l'heure, on a parlé de théocratie, et vous-même, vous employez le terme dans votre ouvrage d'héritage théocratique.
Oui, tout à fait.
Alors, donc là, vous êtes peut-être un tout petit peu en discordance, oui, mais enfin, bon, c'est
là. Il a dit que son livre était inattaquable, mais il y a au moins un point. Avec toute amitié,
On est obligé d'avoir recours à des qualifications et des catégorisations. Ces qualifications sont toujours imparfaites, parce qu'elles sont réductrices. On est obligé de placer les gens dans des cases.
Tout à fait.
Donc, utiliser le terme de théocrate, c'est une facilité de langage, en effet, mais c'est pratique. Ça permet de situer le courant de pensée politique.
Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, je vais rappeler à nos auditeurs qu'ils sont sur Radio Courtoisie, qu'ils écoutent les Mardis de la Mémoire, et que nous avons aujourd'hui dans le studio Michel Fromentoux, rédacteur en chef de l'Action française 2000, rédacteur en chef, et Tony Quinter, historien des idées politiques, qui vient de publier un ouvrage intitulé « Charles Maurras, la contre-révolution pour héritage », avec une préface du professeur Olivier Dard, qu'on entend d'ailleurs souvent à l'antenne de Radio Courtoisie. Et tout ça est aux nouvelles éditions latines. Alors, j'ai un autre message d'auditeur, Anne. Les frères de Maistre ont leur statue à Chambéry, près du château. J'en suis presque sûre. Justement, on parlait de Xavier de Maistre aussi tout à l'heure. Pour la petite histoire, les relations entre Joseph et Xavier de Maistre, vous les avez...
J'avoue que je connais.
Oui, moi aussi, mais
je sais que Maurras avait écrit un article, justement, en 1896, dans Le Soleil, sur l'érection de la statue des frères Maistre à Chambéry.
Ah, très bien.
Dans lequel il dressait un portrait assez traditionnaliste de Joseph de Maistre, alors que c'était le versant le plus décrié de Maistre à l'époque, puisque c'était plutôt le papisme de Maistre qui était à la mode à ce moment-là.
Ah oui, d'accord. Alors,
Joseph de Maistre, d'ailleurs, pour montrer tout de même les différences entre les deux personnages, lui ne reviendra jamais en France. Il meurt en émigration à Turin.
Oui.
Bon, alors sa ville natale le célèbre maintenant. Alors que Bonal revient très tôt. Dès 1797, il est en France.
Il revient en clandestinité sous le nom de Célestin.
Mais on le laisse et on sait très bien qu'il est là. Hein, donc, et il restera en France jusqu'à sa mort. Donc là, je pense que ça compte aussi dans l'itinéraire à la fois intellectuel et personnel des deux auteurs que de voir cette différence, d'autant que ça peut paraître étonnant chez Bonal qui a si bien parlé de la différence qu'il peut y avoir entre son pays et sa patrie et combien parfois on peut quitter son pays parce que sa patrie est ailleurs.
Mais alors justement, ça évoque pour moi une chose, c'est que et Bonal et Maistre, comme beaucoup d'autres, comme Chateaubriand et comme des tas d'autres hommes qui ont vécu les débuts de la Révolution française et qui ont vécu même la Révolution française, ils se sont quand même intéressés aux idées nouvelles, et l'un et l'autre.
Oui, et dans la notice du Grand Larousse universel du XIXe siècle sur Joseph de Maistre, datée de 1868, l'article se termine sur le fait que Maistre s'est rallié à l'idée de progrès. Alors, est-ce que c'est une allusion au comtisme Je ne sais pas.
En tout cas, c'est une chose que j'aime à rappeler, parce que les choses ne sont jamais linéaires, les choses ne sont jamais noires et blanches, elles sont à la mesure de l'homme et de ce qui peuvent être des hésitations, des emballements qu'il rejette. Maurras, à commencer, on le sait très bien, a eu une tentation vers l'anarchie.
Bien sûr.
Hein, il était quand on voit ses photos de jeune homme.
Qui s'est ensuite, bien sûr, redressé.
Il s'est structuré après, si vous voulez.
Il a besoin justement d'ordre pour canaliser
ses
anarchies.
Oui, il s'est structuré.
Qu'il avait quand même au fond lui-même encore.
C'était Albert Thibaudet qui l'appelait le petit anarchiste.
Mais Thibaudet était un homme remarquable. Voilà un auteur tombé complètement dans l'oubli et qui a fait des analyses de Maurras absolument remarquables. Certainement parmi les meilleurs.
Il faut lire
Thibaudet. Les idées de Charles Maurras, c'est un texte à lire.
C'est magnifique.
Je sais que le professeur Michel Desmarie aimerait bien le faire rééditer.
C'est une bonne idée, parce que vraiment, c'est quelqu'un dont on ne parle plus jamais, alors que ça a été un très grand esprit, Thibaudet, et un excellent analyste. Enfin, bon.
Il a été professeur à Louis le Grand, non? Il n'était pas.
Thibaudet, professeur, je pense.
Bon, il faudrait qu'on lui consacre une émission, au fond. Si on sort un livre, ça sera une bonne occasion.
Il y a eu le bouquin de Michel Lémarie, Thibaudet, l'outsider du dedans, qui est déjà une bonne évocation.
Quel terme.
Une chose qu'on disait tout à l'heure à propos de ces hommes qui ont flirté un peu, si je peux dire, avec les idées nouvelles avant de se manifester comme contre-révolutionnaires. Ça montre aussi qu'à la fin de la monarchie, des années qui ont précédé la révolution, il y avait quand même beaucoup de personnes qui souhaitaient qu'il y ait des modifications politiques ou
les idées,
c'était un peu plus dangereux, mais que s'il y avait eu un pouvoir, si le droit avait été plus fort, s'il avait vraiment on disait tout à l'heure, je crois, entre nous, que le roi n'avait pas toujours été suffisamment fort, pas suffisamment résisté au courant qui se faisait. Et il aurait peut-être pu, je pense, redresser les choses, et ces idées nouvelles se seraient rangées dans l'ordre, comme c'est arrivé aussi, que ces idées nouvelles puissent être canalisées, reprises et assimilées, même dans un cadre d'un ordre. Parce que, oui, ça fait penser à une chose qu'on a oublié de dire tout à l'heure quand on parlait de la franc-maçonnerie, quand même que tous ces gens-là en faisaient partie plus ou moins, mais certains, pas tous, en tout cas les maîtres, oui, mais que la franc-maçonnerie avait déjà été condamnée quand même par le pape. Pape, c'est Clément XIV, si je me souviens bien, non? Je dis peut-être une bêtise, que nos auditeurs pardonnent si je suis trompé des numéros, mais je crois que la condamnation avait déjà eu lieu. Donc, ils auraient pu en tenir compte quand même avant de s'y engager. Oui. Bon, ça, c'est un parti, c'est pas le sujet aujourd'hui.
Oui, oui, mais c'est une remarque très forte intéressante, parce que ça situe quand même bien les choses autour de la franc-maçonnerie, donc qui n'étaient pas admises par le Vatican, le Vatican. En tout cas, vous aviez d'ailleurs amorcé tout à l'heure les réactions de Maurras contre-révolutionnaire, comment se bâtit sa pensée contre-révolutionnaire, vous avez énoncé tous les grands esprits qui l'ont qui l'ont influencé, mais revenons, si vous voulez bien, à Monald et à Maistre et à ce fameux héritage théocratique entre guillemets. Alors Maurras, lui, donc, vit un siècle plus tard, donc il n'a pas les mêmes obligations. On a dit que veut réveiller la classe royaliste. Bon, il arrive, c'est un peu endormi, tout ça n'est pas... Mais
c'est pas spécialement endormi. Disons que c'est une galaxie en pleine atomisation, qui a déjà modifié ses idées, qui s'est rapproché du nationalisme très maladroitement. Il faut voir l'article de Laurent Joly là-dessus, sur les royalistes avant l'affaire Dreyfus, et qui s'est rapproché aussi de la xénophobie, l'antisémitisme et l'antiprotestantisme.
Il y a quand même une période, certainement chez les royalistes, un petit peu, j'allais dire, d'assoupissement. En tout cas, c'est d'abord la maladie et la mort du comte de Paris, puisqu'il commence à être malade dans les années 90. D'abord, il y a le problème du ralliement, entre guillemets, que Léon XIII prône envers la République et qui donne un coup terrible au comte de Paris, alors que le comte de Paris est très proche de Léon XIII. Et puis, donc, il est très malade, il meurt en 94. Et il y a quand même peut-être une dizaine d'années jusqu'à ce que le duc d'Orléans, lui, alors, se lie avec Maurras, reparte. Bien entendu, il y a des comités royalistes. Il y a quand même une structure qui marche de chez les royalistes. Et puis, il y a des tas de gens qui sont royalistes, mais dans les grands esprits. Mais il y a quand même, dans cette fin du XIXe siècle où Maurras fortifie ses conceptions royalistes, il y a quand même un peu un petit vide. Hein, disons, quand même, c'est un moment un peu de faiblesse, disons.
De ralentissement.
De ralentissement.
Bon, il y a bien des personnages comme M. de Sabran-Pontévès, qui anime sa circonscription de...
Oui, il y a quand même des bagarreurs.
Il y a des bagarreurs, comme Sabran-Pontévès.
Oui, entre autres. Mais bon, et l'Ursalus aussi.
L'Ursalus aussi, oui.
Ouais. Mais bon, il est certain que ça va redémarrer, que le rapprochement, la complicité qui va se créer entre Maurras et le duc d'Orléans, donc le nouveau prétendant, va aider à ce redémarrage, va aider Maurras, et Maurras va aider le prétendant. Il y a une espèce d'osmose se crée, on voit dans leur correspondance.
Au moment de l'enquête sur la monarchie.
Et que vous citez d'ailleurs, citez des lettres que j'avais eues en main pour le colloque du cinquantenaire de la mort de Maurras d'ailleurs, et qui montrent bien qu'il y a vraiment tout de suite une entente qui se crée entre les deux, et tout ça permet de relancer l'idée de royauté. Alors, c'est votre sentiment ?
C'est tout à fait mon sentiment, oui. Le prétendant a vu qu'il y avait un nouvel élan avec Maurras, qui était en train de se constituer autour du nationalisme intégral, qui voit une imbrication du monarchisme et du nationalisme jusqu'à la fusion intégrale. Et il a suivi le mouvement, en quelque sorte.
Alors,
il ne pouvait pas se désintéresser de ce nouveau public qui était en ébullition intellectuelle et qui pouvait lui apporter beaucoup en termes médiatiques.
Oui, comme quoi, on peut dire même que c'est une leçon d'ailleurs pour nous, parce qu'on peut toujours penser aussi, on peut toujours critiquer le prétendant en disant qu'il ne remue pas assez ou qu'il... C'est bien facile à dire, mais il faut aussi voir qui il a autour de lui et il faut voir aussi qui sont ceux qui se prétendent monarchistes et ce qu'ils font et est-ce que ça l'entraîne à marcher avec eux ou non, parce que je crois que pour qu'il y ait que le prince agisse, il faut qu'il soit soutenu. Et c'est le risque qui peut arriver quand les royalistes sont divisés, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui. Je ne dénierai personne.
Voilà, non.
Mais Charles Maurras, c'est un homme qui a vraiment capté toutes les nouveautés intellectuelles de son siècle, de son moment plutôt, oui. Et qui a essayé de les ramener vers le public royaliste. Il voulait rendre vraiment la monarchie populaire, mm-hmm. Que ça soit sur la féminisation du masculin, sur la conquête des idées contre-révolutionnaires, la redéfinition des idées comme la vertu, la liberté, etc., la justice, la nation et l'histoire. C'est vraiment quelqu'un qui était à la mode, en vogue.
Oui, c'est ça. Oui. Alors, chose très importante, mais rapidement, alors, qu'est-ce qu'il prend, puisque c'est le point de départ de notre émission, qu'est-ce qu'il prend dans sa façon de relancer le royalisme à Bonald et à Mestre, rapidement, hein.
Ben pour les rapports entre Maurras et Bonald, il faut se satisfaire des traces de filiation. En dépit de la présence de nombreuses œuvres de Bonald dans la bibliothèque paternelle, Maurras a très peu lu Bonald. Il l'avoue en 1942, dans De la colère à la justice, et de manière révélatrice, son parcours bonaldien s'arrête après ce passage. En fait, il l'avait découvert en 1887, lorsqu'il devait commenter avec emphase les pensées sur divers sujets de Bonald, article de l'Instruction publique, où il offre une vue assez conventionnelle du vicomte Rouergat. Maurras va passer ses critiques à l'égard de Bonald dans le cadre de la récupération d'ailleurs représentatif lors des premières passes d'armes de l'Action française. Tout son effort va alors se porter à faire de Bonald un parfait militant d'Action française, un exemple à suivre en le taxant de réaliste, de positiviste, lui qui était métaphysicien. Il utilise les citations de Louis de Bonald dans ses articles à contresens. Il ne prête même pas attention aux réticences des descendants du vicomte de Bonald, Joseph de Bonald, concernant la récupération par l'Action française.
Oui.
Pourtant, Maurras reste profondément attaché à Bonald. Ce qui le prouve, c'est l'image phare de mon ouvrage, ce document inédit, où on voit donc Maurras devant le tombeau de Louis de Bonald en 1941, en pleine Deuxième Guerre mondiale, au moment où l'ère du temps était acquis au fascisme et au national-socialisme. Enfin, du point de vue quantitatif, mon graphique démontre assez bien que Maurras a totalement éclipsé Bonald lors de ses années de publication, des années 1890 aux années 1950. Pour Mestre, on peut dire qu'on a affaire à un cas similaire de captation puis de recalibrage d'un patrimoine idéal par Maurras. Le processus est par contre plus long et plus malaisé, car Mestre est très revendiqué par les Républicains, plus tard par une frange des penseurs de la Révolution nationale et des totalitarismes. À la naissance de Maurras, Mestre est un sujet sensible derrière lequel se cachent des enjeux politico-religieux sous le pontificat de Pie IX. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les condamnations du Concile Vatican I sont au carrefour des parcours de Bonald, Mestre et Maurras. Si la seconde constitution qu'il a promulguée proclame l'infaillibilité pontificale, Pie IX s'attaque dans la première aux doctrines rationalistes et traditionnalistes, condamnant avant l'heure l'œuvre de Maurras. Contrairement à Bonald, Maurras a lu Mestre et connaît son œuvre sur le bout des doigts, si bien que Maurice Barrès lui demande dans une lettre de retrouver un passage de Mestre. Ce qui va se jouer entre Mestre et Maurras, par contre, et c'est là le point important, c'est la récupération sous la même bannière des catholiques et positivistes sous l'étendard de l'Action française. Ce processus va se poursuivre par un procédé de petite main des auteurs proches de Maurras qui vont écrire des bouquins sur Mestre en démontrant à quel point il est proche de celle du maître. Et le cas le plus emblématique de cette technique apparaît comme étant l'opuscule de Lazare de Gérard Ricard, jeune maurrassien, intitulé « Les idées politiques de Joseph de Mestre et la doctrine de Maurras » en 1929. Donc ce qu'il récupère de Bonald et Mestre, ce sont des autorités intellectuelles pour lui, et ils sont présentés comme des intimidations intellectuelles au moment où il essaye d'ancrer son magistère. Puis après, il les utilise comme une grand-mère, en fait. Il s'en détache très facilement.
Est-ce que vous voulez dire que Maurras, c'est pas une coquetterie intellectuelle, c'est peut-être pas le bon mot, mais il a cherché à exhumer Bonald pour montrer qu'il s'appuyait sur d'autres auteurs moins connus et moins en vogue qu'un Maistre, par exemple, parce qu'à son discours de réception de l'Académie française, il laisse entendre que Bonald, c'est un peu son maître à penser, que c'est l'écrivain qui connaît le mieux, qu'il est très fier de rentrer dans cette enceinte parce que Bonald, enfin, qui avait succédé au fauteuil de Cambacérès, était académicien. Vous pensez qu'il n'y avait pas tant de fondement que cela, finalement?
Non, je pense que Maurras n'a pas particulièrement lu Bonald. Il s'y est intéressé, il a essayé de rajeunir sa pensée. Mais après cela, on n'a pas de trace, en fait. On n'a pas de trace de sa lecture de Bonald, de sa pratique de Bonald. Les rares fois où il cite Bonald dans ses articles, on retrouve un copier-coller du réalisme de Bonald par Léon Montesquieu. Donc, il a découvert Bonald essentiellement par Paul Bourget et Léon Montesquieu.
Et par les sont bonnes références, quand même.
Ben oui.
Ils sont bonnes références,
mais ce ne sont que des intermédiaires.
Oui, mais bon.
Mais qui taxait Bonald de réaliste, oui. Ce qui était très maladroit, vu que c'était un métaphysicien un petit peu illuministe.
Alors, Michel Fromentou, moi, je voulais vous poser une question dont vous aviez amorcé la réponse tout à l'heure. Il y a quand même, alors, un fossé important entre Bonald Maistre d'un côté. Bon, avec un siècle de différence, bien sûr, à un siècle de distance, hein, nous sommes bien précis. Hein. Et Maurras, dans qu'aurait pensé Maistre et Bonald du fait que Maurras, lui, était, pour lui, les princes, automatiquement, c'était, à partir de la mort du comte de Chambord, c'était les princes de la maison d'Orléans. Bon, et lui, il s'est allié aux Orléans. Donc, est-ce que là, il n'y a pas un véritable fossé entre le légitimisme, entre guillemets, de Bonald et de Maistre, et la façon dont Maurras se récupère, tout en arrivant, comme vous le disiez, aux mêmes conclusions qu'eux, mais en n'étant quand même pas du tout dans la même voie au point de vue dynastique?
Oui, ça c'est difficile à dire parce que je pense que ni Maistre ni Bonald n'avaient pu prévoir que le comte de Chambord n'aurait pas de descendants et qu'il n'irait pas et que les Orléans accéderaient à la couronne.
Bien sûr, mais
alors, ce côté-là me paraît pas essentiel. Ce que je vois en tout cas, c'est que Maurras, comme le dit bien Sonny, a donné à la contre-révolution son aspect le plus élaboré, la meilleure forme,
la plus parfaite.
Et ça, c'est tout à fait juste. Mais je crois que les contre-révolutionnaires auparavant étaient non pas théocrates, je maintiens que je ne garderai pas le mot pour moi, mais qu'ils ont été plutôt un peu dans l'abstrait quand même, forcément. Alors il y avait besoin, au début du XXe siècle, il y avait besoin de revenir un peu au concret. Et le concret, eh bien, ça a été pour Maurras la nation. Réunir les volontés françaises, la volonté de vivre des Français, autour de ce qui leur est commun, c'est-à-dire l'intérêt national. Et à partir de là, tout a démarré. De là, on débouche forcément à la monarchie, puisque si on croit que l'intérêt national est primordial, il faut que cet intérêt national puisse se prolonger, et se prolonger de père en fils, et comme ça être assuré pour une grande pérennité. Alors, je pense que le nationalisme de Maurras, c'est intégral. Ce n'est peut-être pas un aboutissement qui aurait été prévisible des idées de Bonald et de Maistre, mais je trouve que c'est le meilleur avenir qu'on pouvait assurer aux idées de Bonald. Ils ont mis plus ou moins sur la voie.
La notion d'empirisme, une fois de plus.
La notion d'empirisme organisateur, c'est par l'empirisme organisateur que Maurras a tiré les conclusions que la foi avait données à ses prédécesseurs.
Bon, alors on pourrait peut-être quand même donner rapidement une définition de ce qu'était, dans l'esprit de Maurras, le nationalisme intégral, c'est-à-dire donc la monarchie. On peut peut-être donner pourquoi ce terme de nationalisme intégral. Bien sûr, parce que ça reprend, à mon avis, tout le passé, ça reprend l'intégralité
parler de la ville historique de la France, mais il n'y a pas que ça.
Oui, il s'agit d'abord de, en défense de la nation, en la défense, non pas comme un absolu, faire attention, Maurras n'a jamais fait de la nation un absolu, il regrettait même le temps de la chrétienté, le temps où l'Europe était chrétienne, bien que nos européistes aujourd'hui ne veulent plus le reconnaître, mais cette époque-là, Maurras l'a regretté. Donc la nation n'était pas un absolu, mais la nation était le dernier creuset, le dernier élément dans lequel il puisse avoir un bien commun. Les Français n'ayant plus chrétiens comme ils étaient autrefois, n'avaient plus de même source religieuse. Et il y avait quelque chose qui réunissait, c'était le fait d'être de la même nation. Je crois que c'est ça, l'essentiel, c'est ça. Et puis alors, donc il faut trouver les lois qui correspondent à cette nation pour la garder incorrompue dans son être intégral. Et donc de là, la monarchie était la sauvegarde. Je pense que il n'y a pas beaucoup plus à dire pour expliquer le nationalisme intégral, je pense. Que...
Dans le dictionnaire politique et critique, à la date de 1926, il y a une définition par Maurras lui-même qui correspond exactement à ce que vous venez de dire, où il dit nationalisme intégral parce qu'il correspond trait pour trait à tous les vœux, à tous les besoins, à toutes les tendances, à tous les intérêts moraux et politiques, économiques manifestés par le mouvement nationaliste, par l'essentiel des citoyens, enfin bon, des Français. Donc il y a quelque chose, c'est en ça que c'est intégral. Non, il fallait, je pense, définir cela pour nos auditeurs,
raison,
parce que c'est un terme... Alors il y a trois messages qu'on pourrait peut-être dire.
Est-ce que je voudrais juste... rajouter quelque chose pour répondre à votre question. Et c'est à la fois une question que je pose à Michel Frémanteau et à Tony Gunter, parce que je n'ai pas la prétention de croire que ce soit sûr, ce que je vais dire, mais je pense qu'il est quand même très difficile de se demander ce qu'aurait pensé Bonal des maîtres de la théorie politique, du programme politique de Maurras. D'abord, comme vous l'avez dit, parce que à l'époque il n'y avait qu'un prétendant et que la question de la division des branches ne se posait pas, mais parce qu'il me semble qu'un événement encore plus important ne se posait pas non plus, c'était la situation d'affrontement entre la France et l'Allemagne. Bonald et Maistre sont morts avant 1870, Maurras est né après 70,
il était son enfance, justement, dans le cadre de la guerre, 70, oui.
Bonald et Maistre étaient des enfants, non pas forcément de l'Europe chrétienne, mais de l'Europe des monarchies. Et c'est un tout autre monde. Point d'interrogation.
Oui, oui, non, mais vous avez entièrement raison.
Vous avez répondu vous-même.
Ces problèmes-là, de prospective un petit peu journalistique, ça fait hérisser les poils d'un historien académique, parce que... C'est un petit peu, oui, la prospective de se demander ce que Bonald et Maistre...
Fameuse utopie. Hein.
Mais je pense quand même, je plonge dans cet écueil, si je puis me permettre, en disant que je pense que Maistre et Bonald étaient assez nationalistes pour accepter uniquement que ce soit une famille française qui règne, qui ait accès au trône de France. Et pas une famille espagnole.
Bien sûr.
Oui, certainement.
Voilà. Très bien. Bon, alors, il nous reste 5 minutes et il y a un point que nous n'avons pas encore eu le temps d'évoquer et je pense qu'on doit le faire rapidement, mais on doit le faire. Et d'ailleurs, vous l'évoquez vous-même dans votre livre, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc, en pages 153 et 154, vous parlez du ralliement de Maurras à l'union sacrée. Je tiens à préciser cela parce que il peut courir à droite à gauche l'idée que Maurras s'est rallié à la République. Là, je dois dire que j'aurais tendance, pardon d'être un peu nette, à m'inscrire en faux. Maurras s'est rallié à l'union sacrée. Pourquoi ?
Exactement.
Parce qu'on c'était un gouvernement qui représentait la France.
Oui.
C'était le gouvernement en place, il ne pouvait pas le changer à ce moment-là, il n'en est pas question. Au contraire, il fallait minimiser les dissensions intérieures de la France et tous s'unir pour la meilleure défense de la France.
Quand l'ennemi est là, la première chose à faire, c'est de se réunir.
Voilà. J'aimerais bien que vous commentiez ça tous les deux, qui va être d'ailleurs quasiment la conclusion de notre émission. Je crois que Tony Gunter, peut-être Michel Frémanteau va commencer, et Tony Gunter, vous pourrez peut-être terminer sur ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire la pérennité des idées de Maurras.
D'accord.
Ça, il aura la conclusion.
Dans deux minutes.
Non, alors, sur l'Union sacrée, je crois que vous avez bien dit, Dominique, l'essentiel. Et Maurras a toujours défendu la nation, mais avec tout le monde. C'est que Maurras n'a jamais été un homme de chapelle. Tout à l'heure, quelqu'un a employé le mot de théorie, je crois que c'est Anne. Je n'aime pas beaucoup la théorie de Maurras. Non, Maurras n'était pas un théoricien. On peut le dire de Bonald, il dit même qu'il était une théorie, mais ce n'est pas le cas de Maurras. Un péricolonisateur, ça n'a rien à voir avec une théorie. Mais il avait donc rassemblé des gens, toutes idées. Il avait fait venir des gens qui étaient de religion catholique, d'autres qui n'étaient pas, d'autres. Il y a même eu des protestants, il y a eu toutes sortes de gens, des gens de tous horizons, qui sont rassemblés, même des gens de gauche, qui sont au début de la française, qui sont rassemblés autour de Maurras. Donc cette union, c'est ce que Maurras a toujours cherché à faire, mais à plus forte raison, bien sûr, quand l'ennemi qui arrive, il faut réunir toutes les forces.
Oui, alors, il a rebondi après la guerre. Et Dieu sait si, entre les deux guerres, il était plus royaliste que jamais. Et deuxièmement, il faut savoir que quand même, cette expression d'union sacrée que Raymond Poincaré s'attribue dans ses mémoires, est née justement du fait qu'il a vu toutes les tendances venir vers lui pour servir la France, pour venir se battre, les princes, les autres, etc. Donc c'est comme ça qu'est née l'union.
L'action française ne pouvait pas ne pas en être.
Voilà, absolument. les nationaux ne pouvaient pas ne pas en être.
Quand on pense au régime, ça n'a pas renforcé le régime pour autant d'ailleurs.
Alors c'est à vous.
Sur la normalisation de la pensée de Maurras après l'union sacrée, oui, sa pensée en sort normalisée.
Oui.
Même s'il oscille, il y a une volonté quelque part, une tentation, pas de s'allier, mais d'attirer un public conservateur à lui.
Oui.
Et toutes les années, finalement, entre 1914 et 1934, vont se constituer entre un grand écart entre cette volonté de normalisation du côté des conservateurs et un non-conformisme contre-révolutionnaire.
Bon. Et alors la pérennité, puisqu'il nous reste même pas une minute, la pérennité des idées de Maurras aujourd'hui?
Je déplore moi tout ce qui s'est passé, ça est depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Action française, ça a été un chapelet dissidence, que ce soit Pierre Boutan, que ce soit les jeunes de la NAR ou de la NAF, que ce soit le docteur Guy Rérol dans les années 70, bon. Ou encore pire, la scission d'Hilaire de Crémier qui est arrivée dans les années.
Oui, on va peut-être pas rappeler les choses qui fâchent.
Je pense que la pensée de Maurras est suffisamment forte pour qu'un jour on trouve quand même un terrain d'entente.
Oui, enfin, ça prouve qu'elle est vivante. Hein.
J'appelle moi les royalistes vraiment à se réunir parce que c'est.
Vous parlez d'or et nous vous soutenons tous les tous.
Moi le premier, mais Maurras est trop fort pour qu'un jour ou l'autre.
Moi je crois que ce que vous venez d'évoquer. Montre que Maurras est très vivant et très divers et qu'il a la force de réunir après tout le monde, je pense. Alors malheureusement, notre émission est terminée. Je rappelle nos invités, Michel Fromentou, donc rédacteur en chef de l'Action française 2000, et Tony Kunter, auteur de Charles Maurras, La contre-révolution pour héritage, avec une préface d'Olivier Dard aux nouvelles éditions latines. Un grand merci à tous les deux.
À mardi prochain.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour, les mardis de la mémoire d'Anne Collin et Dominique Paoli, diffusés en direct mardi 22 septembre 2009 de 10h45 à 11h45, en différé l'après-midi de 14h à 15h, mercredi 23 de 6h à 7h et samedi 26 septembre de 14h à 15h. Cette émission a été réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 11 euros ou 9 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Et cette émission sera rediffusée cet après-midi à partir de 14h.